James, Un portrait de femme, chapitre 47. C'est par Henriette Stackpole qu'Isabelle apprit l'arrivée de Caspar Goodwood à Rome, événement qui survint 3 jours après le départ de Lord Warburton. Ce départ avait été lui-même précédé d'un incident de quelque importance pour notre ami, une nouvelle absence temporaire de Madame Merle, qui s'était rendue à Naples, chez une connaissance, heureuse propriétaire d'une villa du Posilippe. Madame Merle avait cessé de contribuer au bonheur d'Isabelle, qui se demandait volontiers si la plus discrète des femmes ne se trouvait pas par hasard en être aussi la plus dangereuse. Elle avait parfois la nuit d'étranges visions. Elle croyait distinguer son mari et son ami à lui, plongés dans de troubles et louches combinaisons. Elle craignait de ne pas en avoir fini avec cette femme qui devait tenir quelque malice en réserve. L'imagination d'Isabelle s'attachait activement à cette question obscure et se sentait de temps à autre arrêtée par une appréhension confuse, si bien que l'absence de la charmante femme lui procurait une sorte de soulagement. Elle avait déjà su par Miss Stackpole que Caspar Goodwood se trouvait en Europe, Henriette lui ayant fait tenir cette information dès leur rencontre de Paris. Quant à Goodwood lui-même, il n'avait pas écrit à Isabelle et elle croyait parfaitement possible qu'il n'eût aucun désir de la voir. Leur dernière entrevue, avant le mariage d'Isabelle, avait le caractère d'une rupture décisive. Si elle se le rappelait bien, il avait dit souhaiter la voir pour la dernière fois. Depuis lors, il était resté pour la jeune femme le souvenir le plus déplaisant de son passé, le seul qui n'alla jamais sans une gêne douloureuse. Il lui était resté de ce dernier entretien une impression de violence purement gratuite, comme une collision de navire en plein jour. Elle n'avait pour excuse ni brouillard ni traître courant, et Isabelle elle-même s'était efforcée de gouverner au large. Il n'en était pas moins venu heurter son étrave, alors qu'elle tenait la barre et, pour poursuivre la métaphore, avait causé au frêle esquif une avarie qui se révélait encore de temps à autre par un léger grincement. Cette rencontre avait été très pénible à Isabelle, parce que le jeune homme pouvait se plaindre du seul tort sérieux qu'elle eût jamais, à son sentiment, causé dans le monde. Il était le seul être qui eut sur elle une créance protestée. Elle l'avait involontairement rendu malheureux, et ce malheur était une réalité. Elle avait pleuré de rage après son départ, sans trop savoir pourquoi, et tâché de se convaincre que ses larmes lui étaient arrachées par le manque de considération du jeune homme. Il était venu lui exposer sa peine, à l'heure où son bonheur à elle était parfait. Il avait fait son possible pour assombrir l'éclat de ses heures pures. Il n'avait pas été violent, et cependant la scène laissait à Isabelle un sentiment de violence. Il y avait eu, en tout cas, une espèce quelconque de violence, peut-être était-ce seulement dans sa crise de larmes et dans l'impression qu'elle en avait gardée pendant 3 ou 4 jours. En définitive, l'effet de cette dernière entrevue s'était effacé, et pendant toute la première année de son mariage, Isabelle avait pu bannir Caspar Goodwood de sa mémoire. C'était un sujet déplaisant. Il était peu agréable d'avoir à penser à un être qu'assombrissait et peinait votre souvenir, et que l'on ne pouvait rien faire pour soulager. Le cas eût été différent si elle avait pu douter, même un peu, de son irréductibilité, comme elle le faisait pour Lord Warburton. Malheureusement, c'était chose indiscutable, et cet air agressif, inflexible, d'un pareil état d'esprit, était fort déplaisant. Elle ne pouvait pas se dire que sa souffrance n'allait pas sans compensation, comme elle le faisait pour son soupirant anglais. Elle n'avait ni foi ni estime pour les compensations de Caspar Goodwood. Une manufacture de coton ne consolait de rien, surtout d'un mariage manqué avec Isabelle Archer. Et pourtant, en dehors de cela, elle ne voyait guère ce qui lui restait, en dehors de ses qualités personnelles, bien entendu. Personnelle, il l'était bien assez. Elle ne le voyait jamais recourant à des consolations artificielles. S'il donnait à ses affaires une extension nouvelle, c'était, à la conviction d'Isabelle, la seule forme d'énergie qu'il pût se permettre, ce serait à cause de l'audace de l'entreprise ou de l'avantage que pourrait en tirer sa maison, et nullement dans l'espoir d'effacer le passé. Ceci donnait à sa personne une sorte de nudité et de sécheresse qui en rendait particulièrement pénible la rencontre dans le souvenir ou la réalité. Elle manquait de cette draperie sociale qui, à notre époque ultra-civilisée, amortit en général la rudesse des contacts humains. Par ailleurs, son silence total, et le fait pour Isabelle de n'avoir jamais reçu de lui signe de vie et à peine entendu prononcer son nom, renforçait l'impression de sa solitude. Elle demandait de temps à autre de ses nouvelles à Lily, mais Lily ignorait tout de Boston, et son imagination était complètement bornée à l'est par l'avenue Madison. Avec le temps, Isabelle s'était mise à penser à lui plus souvent et avec moins de restrictions. Elle avait même plus d'une fois eu l'idée de lui écrire. Elle n'avait jamais parlé de lui à Osmonde, ni fait allusion à sa visite de Florence, réserve qui ne lui était dictée au premier temps de son mariage par aucun manque de confiance, mais seulement par la considération que les mécomptes du jeune homme étaient son secret à lui et non à elle. Il serait peu généreux, songeait-elle, de livrer ce secret à un autre, et au surplus, les affaires de Mr. Goodwood ne pouvaient avoir pour Gilbert qu'un médiocre intérêt. En définitive, elle ne lui avait jamais écrit. Il lui sembla qu'eu égard à sa peine, ce qu'elle pouvait faire de mieux, c'était de le laisser en paix. Malgré tout, elle aurait aimé se rapprocher de lui d'une façon quelconque. Non qu'elle se dit jamais qu'elle aurait pu l'épouser, même après que les conséquences de son mariage lui furent apparues, cette réflexion-là n'avait jamais eu l'audace, entre tant et tant d'autres, de se présenter à son esprit. Mais lorsque commença pour elle la période troublée, le jeune homme retrouva sa place dans le cercle des choses avec lesquelles elle entendait se remettre en paix. J'ai déjà dit avec quelle ardeur elle cherchait à se convaincre que son malheur ne lui était pas échu par sa propre faute. Elle n'envisageait aucune perspective de mort et ne souhaitait pas moins faire sa paix avec le monde, mettre en ordre ses affaires spirituelles. Il lui revenait de temps en temps qu'il lui restait un compte à régler avec Caspar, et elle se sentait maintenant disposée à le faire à des conditions plus libérales pour lui que jamais auparavant. Cependant, elle ne fut pas moins effrayée d'apprendre son arrivée à Rome. Il serait plus désagréable à Goodwood qu'à tout autre de démêler, comme il ne pouvait manquer de le faire ainsi qu'il eût fait d'une comptabilité fausse, le désordre profond de ses affaires. Tout au fond de son cœur, elle pensait qu'il avait investi dans son bonheur toute sa fortune, alors que les autres n'en avaient investi qu'une partie. C'était encore un être à qui elle devrait cacher sa détresse. Elle fut d'ailleurs rassurée, après son arrivée à Rome, où il passa plusieurs jours sans venir la voir. Henriette Stackpole, on l'imagine, s'était montrée beaucoup plus fidèle et avait largement accordé à Isabelle le privilège de sa présence. Notre amie s'en prévalut, car s'étant si bien décidée à mettre sa conscience au net, elle trouvait dans cette intimité renouvelée un moyen de se laver de l'accusation de superficialité, d'autant plus que si les années avaient, dans leur fuite, enrichi plutôt que terni les singularités qui prêtaient à l'ironie critique de personnes moins partiales qu'Isabelle, elles restaient assez accentuées pour que la loyauté envers leur propriétaire en prît un parfum d'héroïsme. Henriette restait aussi vive, aussi ardente, aussi claire que jamais, aussi nette, aussi brillante et aussi blonde. Ses yeux remarquablement ouverts, éclairés comme de grandes salles d'attente vitrées de chemin de fer, ne s'étaient masqués d'aucun volet. Sa mise n'avait rien perdu de sa fraîcheur, ses opinions de leur parfum national. Elle était loin pourtant d'être restée identique à elle-même, et Isabelle s'étonnait de la trouver volontiers imprécise. Cette imprécision était chose nouvelle chez elle. Autrefois, bien qu'entreprenant plusieurs poursuites à la fois, elle savait rester en chacune entière et catégorique. Elle donnait une raison à chacun de ses gestes et se hérissait de motifs. Lors de son premier voyage d'Angleterre, elle avait traversé l'océan parce qu'elle voulait voir l'Europe. Mais maintenant qu'elle l'avait vue, elle n'avait plus cette excuse. Elle ne prétendait pas un instant que le désir de contempler des civilisations décrépites eût rien à faire avec son expédition actuelle. Son voyage illustrait plutôt son indépendance qu'un sentiment quelconque d'obligation à l'égard du vieux monde. « Ce n'est rien de venir en Europe, expliqua-t-elle à Isabelle, et il ne me paraît pas qu'on ait besoin de tant de raisons pour cela. C'est quelque chose au contraire de rester chez soi, et quelque chose d'autrement important. Ce n'était donc pas avec le sentiment d'accomplir aucun acte d'importance qu'elle s'offrait un nouveau pèlerinage à Rome. Elle avait déjà vu la ville et l'avait visitée à fond. Ce nouveau séjour était simplement une marque de familiarité, de connaissance intime, affirmait son droit à y résider autant que quiconque. Tout cela était fort bien. Mais Henriette restait agitée. Elle avait parfaitement le droit d'être agitée ainsi, à vrai dire, car elle avait en définitive une raison plus sérieuse de venir à Rome que son peu de goût pour la ville. Isabelle n'eut pas de peine à la démêler et retrouva du coup la valeur de la fidélité de son amie. Elle venait d'affronter en plein hiver les tempêtes atlantiques parce qu'elle avait pressenti qu'Isabelle était triste. Henriette, qui devinait beaucoup de choses, ne l'avait jamais fait avec autant de bonheur. Isabelle, pour le moment, reconnaissait que peu de satisfaction, mais même si elle en avait eu davantage, elle aurait encore trouvé une sorte de joie orgueilleuse dans le fait de trouver justifiée la haute opinion qu'elle s'était toujours faite d'Henriette. Elle avait à son sujet fait de larges concessions, mais n'en maintenait pas moins toujours que, malgré toutes les réserves, son ami gardait une véritable valeur. Au surplus, ce qui la réconfortait maintenant, ce n'était pas son propre triomphe, mais le fait d'avouer à cette confidente, ce l'être devant qui elle l'eût reconnu, qu'elle n'avait pas le cœur en paix. Henriette elle-même, abordant le sujet sans le moindre atermoiement, avait nettement accusé son amie d'être malheureuse. C'était une femme, une sœur, ce n'était ni Ralph, ni Lord Warburton, ni Caspar Goodwood. Isabelle pouvait parler. « Oui, je suis malheureuse, avoua-t-elle avec calme. Le son de cet aveu dans sa propre bouche lui déplaisait fort, et elle s'efforçait de le faire avec toute l'impartialité possible. « Que vous fait-il donc ? » demanda Henriette avec un froncement de sourcils, comme si elle eût conduit une enquête sur les agissements d'un médecin marron. « Il ne me fait rien, il ne m'aime pas. » « Il est difficile, » s'écria Miss Stackpole. « Pourquoi ne le quittez-vous pas ?»« Je ne puis pas changer comme cela, » dit Isabelle. « Pourquoi cela ? Je voudrais le savoir. Vous ne voulez pas avouer que vous vous êtes trompée ? Vous êtes trop orgueilleuse. »« Je n'en sais rien. En tout cas, je ne veux pas proclamer mon erreur. Cela ne me paraît pas propre. J'aimerais mieux mourir. » »« Vous n'en jugerez pas toujours de même, » prophétisa Henriette. « Je ne sais à quoi pourrait m'amener un comble d'infortune, mais il me semble que je garderai ma pudeur. » Il faut accepter ses actes. Je l'ai épousé à la face du monde. J'étais parfaitement libre. Il était impossible d'accomplir un acte plus délibéré. On ne change pas comme cela, répéta Isabelle. Cette impossibilité ne vous empêche pas, vous, d'avoir changé. Vous n'allez pas me dire que vous l'aimez encore. Isabelle réfléchit. Non, je ne l'aime plus. Je vous le dis parce que mon secret me pèse. Mais cela suffit. Je ne puis pas aller le crier sur les toits. Vous avez bien des ménagements, fit Henriette en riant. « Ce n'est pas à lui que je pense, c'est à moi, » répondit Isabelle. Rien d'étonnant à ce que Gilbert Osmond n'eût pas éprouvé grande sympathie pour Miss Stackpole. Son instinct le mettait naturellement en méfiance contre une jeune personne capable de conseiller à sa femme de déserter le domicile conjugal. Lors de son arrivée à Rome, il avait dit à Isabelle qu'il espérait lui voir laisser de côté son amie la journaliste, et Isabelle avait répondu qu'il n'avait, lui du moins, rien à craindre d'elle. Elle expliqua à Miss Stackpole que l'hostilité de Gilbert l'empêchait de l'inviter à dîner, mais qu'elles auraient par ailleurs d'autres facilités de rencontre. Isabelle recevait sans encombre son amie et l'emmenait souvent en voiture, en face de Pensée qui, légèrement penchée en avant sur le siège opposé du landau, considérait la célèbre femme de lettres avec une attention respectueuse qu'Henriette trouvait parfois agaçante. Elle se plaignit à Isabelle que Miss Osmond eut l'air de vouloir se rappeler le moindre des mots échangés. « Je ne veux pas de cela, » déclara Miss Stackpole. « Je considère que ma conversation n'a trait qu'au moment présent, comme le journal du matin. Votre belle-fille, quand on la voit en face de soi, on dirait qu'elle conserve tous les vieux numéros pour y chercher un jour de quoi vous confondre. » Elle ne pouvait arriver à se faire une opinion favorable de Pensée, dont le manque d'initiative, de conversation et le défaut de visée personnelle lui semblaient contre nature et presque monstrueux. Isabelle s'aperçut bientôt qu'Osmond eût aimé lui entendre plaider la cause de son ami et insister un peu pour qu'il la reçût. Il aurait pris ainsi l'attitude d'un homme qui souffre au nom des bienséances. La facilité avec laquelle sa femme avait accueilli ses objections le mettait dans son tort, et il éprouvait cet évident inconvénient du mépris exprimé qui prive du crédit d'exprimer sa sympathie. Osmond tenait à son crédit et ne tenait pas moins à ses objections selon des sentiments malaisément conciliables. Le mieux eût été que Miss Stackpole vint une ou deux fois dîner au Palazzo Rocanera, pour que, malgré la superficielle et toujours si grande civilité du maître de maison, elle jugeât par elle-même du peu de plaisir que lui procurait sa présence. Du moment que les deux dames se montraient si indociles, il ne restait plus à souhaiter pour Osmond que le départ de la jeune New-Yorkaise. Il était surprenant de constater quelle piètre satisfaction lui valaient les amis de sa femme, comme il prit soin de le faire remarquer un jour à Isabelle. « Vous n'êtes certainement pas heureuse dans vos amitiés, et je voudrais que vous renouveliez votre collection, » lui dit-il sans aucune allusion à un fait précis, et sur un ton de mûre réflexion qui privait l'observation de toute brutalité directe. « On dirait que vous vous êtes donné la peine d'aller chercher, de par le monde, les gens qui ont le moins de points communs avec vous. Votre cousin, je l'ai toujours tenu pour un vaniteux imbécile, ce qui ne l'empêche pas d'être l'animal le plus défavorisé que je connaisse. » Il est odieusement agaçant de ne pouvoir lui dire son fait et de devoir le ménager au nom de sa santé. Sa santé, c'est encore ce qu'il a de meilleur, et elle lui assure des privilèges refusés aux autres. Si son état est si désespéré, il aurait une façon de nous le prouver, mais il ne paraît pas s'en soucier. Je n'en dirai pas beaucoup plus du grand Warburton. Quand on y pense, la froide insolence de sa conduite a été quelque chose de rare. Il vient et regarde ma fille comme si c'était un appartement à louer. Il essaye les boutons des portes, regarde par les fenêtres, tapote les murs et se dit tout prêt à la location. Il n'y aura plus qu'à rédiger un projet de bail. Puis, somme toute, il décide que les pièces sont trop petites, il lui faut la place d'un piano à queue et il n'aimerait pas habiter au troisième étage. Et le voilà parti, après s'être fait offrir un mois d'hospitalité gratuite dans le pauvre petit appartement. Mais votre plus merveilleuse invention, c'est encore Miss Stackpole. Elle me fait l'effet d'une sorte de monstre. Pas de nerf dans l'organisme qu'elle ne fasse frémir. Vous savez que je n'ai jamais admis qu'elle fût femme. Savez-vous à quoi elle me fait penser ? À une plume neuve de métal, la chose la plus odieuse du monde. Elle parle comme écrit une plume métallique, et doit, soit dit en passant, écrire ses articles sur du papier réglé. Elle pense, bouge, marche, et se manifeste exactement comme elle parle. Vous pourriez dire qu'elle ne me gêne guère, puisque je ne la vois pas. Mais je l'entends tout le long du jour. J'ai sa voix dans les oreilles, et je ne puis l'en déloger. Je sais exactement ce qu'elle dit, et chacune de ses inflexions pour le dire. Elle raconte de charmantes choses à mon sujet, et qui vous font bien plaisir. Je n'aime pas du tout penser qu'elle parle de moi. Cela me fait le même effet que de voir un domestique porter mon chapeau. En fait, comme Isabelle le déclara à son mari, Henriette parlait beaucoup moins de lui qu'il ne se le figurait. Elle avait à cœur nombre de sujets, dont deux au moins peuvent présenter pour le lecteur un intérêt particulier. Elle avait informé son amie que Caspar Goodwood n'ignorait plus qu'elle fût malheureuse, bien qu'elle ne vît point dans sa naïveté quel soulagement il espérait lui apporter en demeurant à Rome sans venir la voir. Les dames le rencontrèrent deux fois dans la rue sans que rien n'indiquât qu'il les eût aperçues. Elles étaient en voiture et il avait coutume de regarder droit devant lui, comme s'il n'eût point consenti à fixer plus d'un objet à la fois. Isabelle croyait l'avoir vu la veille. C'était évidemment avec ce même visage et de ce même pas qu'il avait franchi la porte de Mrs. Touchett à la fin de leur dernière rencontre. Il portait exactement le même costume que ce jour-là. Isabelle retrouvait la couleur précise de sa cravate, et pourtant, malgré cet air familier, on décelait une certaine étrangeté dans sa personne, quelque chose qui prêtait à nouveau une signification un peu redoutable à sa présence à Rome. Il paraissait plus large et plus dominateur que jamais, bien qu'il eût toujours été de belle taille. Isabelle s'aperçut que les gens qu'il dépassait se retournaient pour le regarder. Il s'en allait tout droit, en dressant au-dessus des passants un visage pareil à un ciel de février. Le second sujet cher à Miss Stackpole était d'ordre tout différent et se rapportait à Mr. Bantling. Il avait fait l'année précédente le voyage des États-Unis, où elle s'était accordé la satisfaction de s'occuper largement de lui. Elle ne savait pas jusqu'à quel point il avait joui de son séjour, mais n'hésitait pas à croire qu'il en avait retiré du profit. Il n'était plus à son départ le même homme qu'à son arrivée. Le voyage lui avait ouvert les yeux et montré que l'Angleterre n'était pas tout le monde. On l'avait beaucoup apprécié en général, et trouvé très simple, plus simple qu'on ne s'attendait d'ordinaire à trouver un Anglais. Il y avait des gens qui l'accusaient d'affectation, sans doute était-ce son ingénuité même qu'il prenait pour telle. Il posait des questions par trop décourageantes, il croyait que toutes les femmes de chambre étaient filles de fermiers, ou toutes les filles de fermiers femmes de chambre, Henriette ne s'en souvenait plus très bien. Il n'avait pas saisi grand-chose au système scolaire dont l'ampleur le dépassait. Au total, il se comportait comme si tout le dépassait un peu, et comme s'il n'avait pu voir qu'un côté des choses. Les côtés auxquels il s'était attaché étaient l'organisation hôtelière et la navigation fluviale. Il avait été véritablement subjugué par les hôtels et possédait des photographies de tous ceux qu'il avait visités. Mais les transports fluviaux faisaient l'objet de son principal intérêt, et il voulait sans cesse naviguer sur les grands vapeurs. Ils s'étaient rendus ensemble de New York à Milwaukee, non sans faire halte en chemin dans les villes intéressantes, et chaque fois qu'ils se remettaient en route, il demandait si l'on ne pouvait pas prendre un bateau. Il ne semblait pas avoir la moindre notion de géographie, faisait vaguement de Baltimore une ville de l'Ouest et s'attendait sans cesse à déboucher sur le Mississippi. On aurait dit qu'il n'avait jamais entendu prononcer le nom d'aucun autre cours d'eau d'Amérique et il ne s'attendait pas à faire connaissance avec l'Hudson, bien qu'il fût obligé en définitive de reconnaître que ce fleuve valait largement le Rhin. Ils avaient passé des heures agréables dans les wagons-salons où il se faisait toujours apporter des glaces par le nègre de service. Il ne pouvait se faire à l'idée d'absorber des glaces en wagon. Naturellement, on n'en trouvait pas plus que des éventails, des bonbons ou quoi que ce fût d'autre dans les wagons anglais. La chaleur lui semblait accablante et Henriette lui avait dit qu'il ne devait jamais en avoir subi d'aussi forte. Pour l'instant, il se trouvait en Angleterre, en tournée de chasse, comme disait Miss Stackpole. Ces amusements-là, on les laissait en Amérique aux peaux rouges, et les Blancs avaient depuis longtemps renoncé au plaisir de la chasse. On croyait en général en Angleterre que les Américains s'affublaient de tomahawks et de plumes, alors que pareil accoutrement eût été plus conforme aux habitudes britanniques. Mr. Bentley n'avait pas le temps de venir rejoindre Miss Stackpole en Italie, mais lorsqu'elle repasserait par Paris, il comptait l'y rejoindre. Il voulait revoir Versailles, car il était fort épris de l'Ancien Régime. Il ne s'entendait pas sur ce point, mais Henriette aimait aussi Versailles, et précisément parce que l'on pouvait voir que l'Ancien Régime en avait été balayé. On n'y rencontrait plus ni duc ni marquis, mais un jour, elle y avait vu jusqu'à 5 familles américaines qui se promenaient dans le parc. Mr. Bentley désirait fort qu'elle se remît à étudier l'Angleterre, et pensait qu'elle s'y trouverait maintenant plus à l'aise, car le pays avait beaucoup changé depuis 2 ou 3 ans. Si Miss Stackpole se rendait en Angleterre, il voulait absolument aller trouver sa sœur Lady Pensil et saurait faire en sorte cette fois que l'invitation de cette dame lui parvint. Le mystère de la première missive égarée ne s'était jamais élucidé. Caspar Goodwood parut enfin au Palazzo Rocanera après s'être fait précéder d'une lettre qui demandait à Mrs. Osmond la permission de venir la voir. Isabelle répondit aussitôt qu'elle serait chez elle le jour même à 6 heures du soir. Elle se demanda toute la journée ce qui pouvait amener son ancien prétendant et ce qu'il espérait tirer de cette visite. Il s'était affirmé jusque-là comme un homme incapable d'accepter les compromis et bien décidé à prendre tout ce qu'il désire ou à ne rien accepter du tout. Mais le sentiment qu'Isabelle se faisait de l'hospitalité n'autorisait pas les questions trop directes et elle n'eut pas beaucoup à faire pour se donner la satisfaction d'avoir abusé son visiteur. Du moins, se targua-t-elle d'y être parvenue et de l'amener à se dire qu'il était mal informé. Mais elle crut voir du même coup que cette constatation ne lui causait pas la déception qu'elle aurait causée à bien d'autres hommes. Il n'était pas venu à Rome pour chercher une occasion. En fait, elle ne put découvrir le motif de sa visite. Il n'en donna pas d'explication, et la seule raison plausible était son désir de la voir. En d'autres termes, il venait en manière de distraction. Isabelle édifia ce raisonnement avec beaucoup d'application. Et fut ravie d'avoir trouvé une formule assez forte pour imposer silence aux ombres des griefs de cette ancienne victime. Qu'il fût venu à Rome par amusement, c'était précisément ce qu'elle souhaitait. S'il songeait à s'amuser, c'est qu'il avait surmonté sa peine. S'il avait surmonté sa peine, tout était pour le mieux, et c'en était fini de la responsabilité d'Isabelle. Il est vrai qu'il jouissait de son amusement avec quelque raideur. Mais il n'avait jamais été de dispositions folâtres ou libertines, et Isabelle avait toute raison de le croire satisfait de ce qu'il voyait. Il n'avait pas répondu aux confidences d'Henriette par une confiance égale, et cette réticence privait Isabelle d'un aperçu par ricochet sur son état d'esprit. Il ne se livrait guère à la conversation sur des sujets généraux, et la jeune femme se rappelait avoir dit de lui, bien des années auparavant, « Mr. Goodwood parle beaucoup mais ne cause jamais ». Il parlait encore beaucoup, mais causait peut-être aussi peu que jamais, quand on considère le nombre de sujets de conversation que l'on trouve à Rome. Sa présence n'était pas faite pour faciliter les rapports d'Isabelle avec son mari, car Osmond n'aimait pas ses amis, et Mr. Goodwood n'avait pas d'autre titre à son attention que celui d'un des premiers amis de sa femme. Elle n'en pouvait rien dire d'autre que de le déclarer le plus ancien de tous, et c'est en cette synthèse un peu maigre que se résumaient les faits de la cause. Force lui avait été de le présenter à Gilbert et de le prier à l'un de ses dîners du jeudi dont elle était très lasse, mais auquel son mari tenait encore, bien moins pour inviter certaines gens que pour n'en pas inviter d'autres. Mr. Goodwood venait donc le jeudi soir, solennellement et un peu tôt. Il semblait considérer ses soirées avec une gravité qui donnait de temps en temps à Isabelle un accès de colère, tant elle le voyait prendre les choses à la lettre. Il aurait dû comprendre qu'elle ne savait pas comment se comporter avec lui. Il n'avait pourtant rien de stupide, il était seulement d'une honnêteté assez extraordinaire pour le rendre très différent de la plupart des gens. À un homme aussi honnête, on ne pouvait répondre que par une pareille honnêteté. Isabelle se fit cette réflexion au moment même où elle se flattait de l'avoir convaincue qu'elle était la plus heureuse des femmes. Il n'émettait jamais le moindre doute sur ce point, ne lui posait pas de questions indiscrètes. Il s'entendait beaucoup mieux avec Osmond qu'on eût pu le croire. Osmond avait horreur de faire ce que l'on attendait de lui et éprouvait un irrésistible désir de décevoir les importuns qui s'y risquaient. C'est en vertu de ce principe qu'il se donna le plaisir de prendre du goût pour un grand bostonien dont on pouvait attendre qu'il le traitât avec froideur. Il demanda à Isabelle si Mr. Goodwood lui avait aussi demandé sa main et se montra surpris qu'elle ne l'eût pas acceptée. C'eût été une excellente chose, comme d'habiter au pied d'un grand beffroi qui sonnerait toutes les heures et lancerait très haut dans l'air d'étranges vibrations. Il déclara qu'il aimait causer avec le grand Goodwood. Ce n'était pas facile pour commencer. Il fallait escalader un escalier interminable et raide pour atteindre le sommet de la tour. Mais une fois arrivé, on découvrait une belle vue et l'on sentait un souffle de brise fraîche. Osmond, nous le savons, avait des qualités charmantes dont il faisait largement profiter Mr. Goodwood, et Isabelle s'apercevait que le jeune Américain prenait meilleure opinion de son mari qu'il ne l'eût souhaité, alors qu'il lui avait, le matin de Florence, paru n'être point accessible à une bonne impression. Gilbert l'invitait fréquemment à dîner. Mr. Goodwood fumait un cigare avec lui au sortir de table et lui demandait même à voir ses collections. Parlant de lui à sa femme, Gilbert vantait son originalité. Il avait la solidité et le cachet d'une valise anglaise, avec une masse de courroies et de boucles inusables et une serrure de première classe. Caspar Goodwood prit l'habitude de parcourir la campagne à cheval et consacra pas mal de temps à cet exercice. C'était donc surtout le soir que le voyait Isabelle, et elle se hasarda à lui dire un jour qu'il pourrait lui rendre un service s'il y consentait. Puis elle ajouta en souriant « Je ne sais pas si j'ai le droit de vous demander un service. » « Vous êtes la personne du monde qui y avait le plus le droit, » répondit-il. « Je vous ai donné des assurances que je n'ai prodiguées à personne. » Ce service, c'était d'aller voir son cousin Ralph, qui était malade et seul à l'hôtel de Paris, et de lui témoigner toute la bonté possible. Mr. Goodwood ne l'avait jamais vu, mais devait bien savoir de qui il s'agissait. Si elle se rappelait bien, Ralph l'avait un jour invité à Garden Court. Caspar se souvenait parfaitement de l'invitation, et bien que d'imagination assez pauvre, en possédait assez pour se mettre à la place d'un malheureux malade qui se mourait dans un hôtel de Rome. Il se présenta donc à l'hôtel de Paris et trouva, lorsqu'on l'introduisit en présence du maître de Garden Court, Miss Stackpole installée près de son canapé. Un changement singulier était intervenu dans les rapports de cette jeune femme avec Ralph Tuchet. Isabelle ne l'avait pas prié d'aller le voir, mais, apprenant qu'il était trop souffrant pour sortir, elle s'était d'elle-même rendue près de lui. Après quoi, elle lui fit une visite quotidienne, sans perdre la conviction qu'ils restaient grands ennemis. « Oh oui, nous sommes ennemis intimes, » déclarait Ralph, et il l'accusait franchement, aussi franchement que le permettait l'ironie de la chose, de venir le faire mourir d'ennui. En réalité, ils étaient devenus excellents amis, et Henriette s'étonnait fort de ne pas l'avoir apprécié dès leur première rencontre. À Ralph, elle plaisait toujours autant qu'autrefois, car il n'avait jamais douté un seul instant qu'elle ne fût parfaite camarade. Il parlait de tout, sans être jamais du même avis sur rien, sauf en ce qui concernait Isabelle, sujet qui faisait toujours porter par Ralph un doigt mince à ses lèvres. Au contraire, Mr. Bentling leur était de grandes ressources, et Ralph pouvait discuter des heures avec Henriette à son sujet. La discussion était évidemment animée par leur inévitable divergence d'opinion. Ralph s'était amusé à faire de l'excellent ancien garde un véritable Machiavel. Caspar Goodwood ne pouvait apporter aucune contribution à pareil débat. Mais, une fois demeuré seul avec son hôte, il s'aperçut qu'ils avaient bien des points d'intérêt communs. Il faut admettre que Miss Stackpole n'en faisait pas partie. Caspar Goodwood, s'il lui reconnaissait à l'avance tous les mérites, ne voyait plus d'autre observation à faire sur son compte. Les deux hommes ne s'entretinrent pas non plus, après les premières allusions, de Mrs. Osmond, car c'était un sujet où Caspar Goodwood discernait autant de dangers que Ralph. Il éprouvait une pitié profonde pour cet inclassable personnage. Il lui semblait intolérable de voir un homme agréable, fort agréable malgré toutes ses bizarreries, pour lequel on sentit si bien l'impossibilité de rien faire. Pour Goodwood, il restait toujours quelque chose à faire, et il le montra bien en l'espèce, en renouvelant à diverses reprises sa visite à l'hôtel de Paris. Isabelle eut l'impression d'avoir été fort adroite en disposant ingénieusement de l'encombrant Caspar. Elle lui avait trouvé une occupation en faisant le garde malade de son cousin. Elle formait le projet de lui faire accompagner Ralph en Angleterre dès que le temps permettrait un départ. Lord Warburton avait amené Ralph à Rome, et Mr. Goodwood l'en emmènerait. Il y avait une heureuse symétrie dans une pareille perspective, et Isabelle avait maintenant grand désir de voir partir le malade. Elle gardait la constante terreur qu'il mourût sous ses yeux, et envisageait l'horreur de cette mort à l'hôtel, près de sa porte qu'il avait si rarement franchie. Il fallait que Ralph trouvât l'éternel repos dans sa bonne et vieille maison, dans une de ces vastes et tièdes chambres de Garden Court, où le lierre s'accrochait aux chambranles des fenêtres éclairées. Pour Isabelle, Garden Court représentait en ce temps-là quelque chose de sacré. Aucun chapitre de son passé n'était plus impossible à rouvrir. à la pensée des mois qu'elle y avait passés, les larmes lui montaient aux yeux. Elle se flattait, comme je l'ai dit, de sa simplicité de cœur, mais elle en eut grand besoin, car il survint plusieurs événements qui semblaient faits pour l'irriter et la narguer. La comtesse Gemini arriva de Florence, avec ses malles, ses robes, son caquetage, ses mensonges, sa frivolité, l'étrange et malsaine légende du nombre de ses amoureux. Édouard Rosier, qui avait été absent, sans que personne, pas même pensée, ne sût où il se trouvait, reparut à Rome et se mit à accabler Isabelle de longues lettres auxquelles elle ne répondit jamais. Madame Merle, retour de Naples, lui dit avec un singulier sourire « Qu'avez-vous donc pu faire de Lord Warburton ?» comme si elle avait eu à se mêler de cette histoire.